Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au forum Espace Femmes que vous suivez à travers nos médias partenaires au Niger. La promotion des droits de la femme au même titre que les hommes est une exigence de justice sociale, mais davantage une nécessité pour des systèmes qui se veulent démocratiques. Historiquement, les femmes ont été marginalisées et opprimées dans de nombreuses sociétés. Très souvent considérées dans beaucoup de cultures comme inférieures aux hommes, elles n'avaient pas les mêmes droits et privilèges. Cependant, au fil du temps, les femmes se sont battues pour leurs droits et leur place dans la société. L'équipe femme du studio Kalangou se trouve aujourd'hui à Dosso et notre thème, comme vous l'avez constaté, va porter sur comment libérer la parole de la femme pour faire valoir ses droits au Niger, cas des femmes de la région de Dosso évidemment. Qu'entend-on par libérer la parole de la femme? Quelles sont les entraves liées au respect des droits des femmes nigériennes de la région? Que faire pour libérer la parole des femmes pour qu'elles puissent être à même d'exprimer leurs besoins réels, défendre leurs droits et se prémunir de toute violence dans la région de Dosso? Sur ces grands points et à bien d'autres questions, nous allons tenter de répondre en compagnie de Mme Boubacar Kadi Idé, conseillère municipale de la commune urbaine de Dosso, en compagnie de M. Djibrina Nalokoyo, représentant de la direction régionale de la promotion de la femme et la protection des enfants. Je suis Rafika Taher à la présentation. Libérer la parole féminine, c'est offrir une tribune à celle-ci pour exposer les pressions socioculturelles liées à leur statut et qu'elles subissent afin de s'affirmer pleinement et jouer leur rôle dans la société nigérienne. Qu'entend-on par la libération de la parole de la femme, Monsieur Djibrina? Nous allons commencer par vous.
Je suis ravi d'être dans ce studio pour échanger sur une thématique qui nous semble importante. Donc libérer la femme, la parole du moins, pour moi, ça commence dès le bas âge. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer par l'éducation. Parce que sans éducation, on ne peut pas, à la longue, s'attendre à ce que la parole de la femme soit libérée. Il faut que la femme, au même titre que les hommes, soit, dès le bas âge, inscrite à l'école. Et à l'école, souvent, il faut entendre aussi l'école coranique, parce que c'est des aspects aussi, l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire en même temps les deux. Donc moi, je pense que ça commence d'abord par l'éducation, dès le bas âge. Maintenant, pour pouvoir libérer cette parole, tout le monde sait, on vit dans une société où les gens ont le vécu des préjugés.
Monsieur Djibrina, on va arriver aux méthodes pour pouvoir libérer la parole de la femme. En fait, là, la question c'est, qu'est-ce qu'on entend par libérer la parole des femmes?
Donc, moi, chez moi, pour pouvoir libérer la parole de la femme, c'est l'accepter. Accepter que la femme soit aussi, comme on dit, entendue, écoutée, et en public, comme dans les foyers, dans toutes les sphères de la société.
Madame Kadi, la même question pour vous.
Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous ici dans la commune urbaine de Dosso, le studio Kalangou. Comme vous venez de le dire, ce que je vois, que la femme soit autonome d'elle-même. Il faut qu'elle soit autonome, que la femme soit entendue, que la femme soit respectée, et il faut que la femme ait son autonomisation pour pouvoir s'exprimer d'elle-même.
En tant que conseillère municipale de la commune urbaine de Dosso, à quel niveau, voire étendu, les femmes de Dosso pourraient démontrer leur leadership politique?
Les femmes, parce qu'ici à Dosso, vraiment, on a rencontré beaucoup de difficultés. Moi, en tant que conseillère, j'ai vécu beaucoup de difficultés avant d'être conseillère. Pourquoi? Parce que quand je prends le niveau politique, les femmes sont les mobilisateurs, c'est les femmes qui sont les rassembleurs, parce qu'on ne peut pas être leader sans être mobilisateur ou rassembleur. Parce qu'au sein de la politique, ce n'est pas les hommes. La campagne, c'est les femmes. Tout ce qu'on fait dans la politique, c'est les femmes. Nous, ici, notre difficulté envers nos maris, nos frères, parce que des fois, les forums, là, les réunions, il crée les réunions à des heures tardives. Parce que si la femme n'est pas autonome, elle ne devrait pas assister à cette réunion-là. Deux fois, les réunions, c'est à 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et il y a des maris qui n'acceptent pas que leur femme ait le droit de sortir pour aller assister à des cérémonies politiques.
Donc les femmes, jusqu'où est-ce qu'elles peuvent aller pour démontrer leur leadership politique?
Les femmes, au cours des cérémonies, elles peuvent montrer leur leadership parce que au cours de leur fouendi, les cérémonies de mariage, les réunions politiques, elles vont montrer leur force et elles veulent être autonomes. Mais d'autres femmes, surtout quand on prend les femmes de la campagne, c'est autre chose, c'est pas comme les femmes des communes urbaines. Parce que les femmes, au cours même des réunions, elles ne peuvent même pas s'exprimer si leur mari sont là. Déjà là-bas, il y a une défaillance. Parce que nous, en tant que leaders, ça nous fait mal. Il faut que les hommes laissent les femmes s'exprimer d'elles-mêmes. Parce qu'on voit deux fois, même pour aller voter, c'est le mari qui va dire à la femme, laisse-moi qui va voter à ta place. Mais d'autres femmes, elles luttent pour aller voter d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas en tant que mon mari. Tu as ton leader que tu vas voter, j'ai mon leader que je vais voter. Il faut qu'il me donne la liberté d'aller voter et venir.
D'accord. Monsieur Jibrina, qu'est-ce que vous avez à dire sur la question? Jusqu'où elles sont capables d'aller pour démontrer leur leadership?
Sont capables d'aller. Moi, je commencerai, comme on dit, la prise de la parole. Elle doit commencer dès le foyer. Il faut que, dès le foyer déjà, que la femme soit acceptée, qu'elle ait cette capacité de convaincre. Ça, c'est le premier niveau. Au niveau communautaire aussi, souvent les gens se cachent derrière le prétexte qu'on empêche aux femmes de parler. Mais en réalité, souvent c'est lié même aux femmes. Il faut que la femme se libère de ce mutisme-là. Il faut qu'elle se donne confiance, qu'elle se dise « Ah, même en communauté, parce que tout commence là-bas, il faut que je démontre ce que je suis capable de faire. » Ça, c'est au niveau communautaire. Maintenant, au niveau des groupements, là-bas aussi, il faudrait que les femmes puissent être des vrais leaders, comme on dit. Pas seulement en tant que présidente et tout le reste sont des observateurs tristes. Non, il faut que la femme, même en étant présidente d'un groupement, il faut qu'elle apprenne à former les autres aussi. Parce que dans tous les cas, tout le monde connaît la direction d'un groupement, c'est quelques années. Donc il faudrait que dans un groupement aussi, que ce soit dans les structures de la société civile, que ce soit dans les partis politiques, honnêtement, des fois c'est même lié aux femmes.
Je continue avec vous. Pour qu'elles puissent valoir leurs droits, que disent les lois relatives à l'égalité des sexes et les réformes électorales?
Bon, vous savez, si on forme des réformes électorales, déjà on sait qu'il y a les quotas qui sont prévus pour les femmes. Les lois ont prévu des quotas. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il faut que la femme se départisse de cette idée de quotas. Il faut qu'elle se dise, moi j'ai mérité. Pas parce qu'on m'a donné, mais j'ai mérité. Les lois ont tout balisé, d'accord. Même religieusement, ce n'est pas interdit. Puisque quand je parlais de l'éducation, c'est pour la préparation des deux sexes, que ce soit homme ou femme. Ce n'est pas interdit. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Homme-femme, cherchez le savoir. Il faut le chercher. Et il faut faire valoir ce savoir-là. Donc, les textes sont clairs. Les textes ont presque tout balisé. Par exemple, la politique nationale, genre, elle a tout dit. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand on prend la politique genre, les gens ont tendance à croire que non, le genre, là, c'est seulement la femme. Et les femmes elles-mêmes, c'est elles qui donnent l'occasion. Par exemple, balayer la cour. L'homme qui prend le balai, tout de suite la femme va courir pour prendre le balai. Pourquoi elle va se dire, ah, les gens vont se moquer de moi, tout ça là. Alors que c'est des choses que la société...
Donc selon vous, c'est la femme elle-même qui constitue le frein à la libération de leur parole.
Il faut que les femmes se départissent de ces genres d'idées. L'homme veut aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aidé ses femmes dans les activités du ménage. Donc il faut que les femmes s'acceptent elles aussi à faire ces choses-là. C'est des choses qu'on peut modifier. Il y a des choses qu'on ne peut pas modifier, le sexe. On ne peut pas modifier le sexe, tout le monde sait. On est femme. Mais ce qui est du rôle, là, c'est la société qui a attribué à la femme, il faut piler, il faut aller chercher de l'eau, mais tout ça, là, l'homme peut faire. Nous avons vu le violon. Dans certaines sociétés, c'est les femmes qui font. Dans certaines autres sociétés, c'est les hommes qui font. Une manière de dire que ça, c'est la société qui a prévu ces choses et c'est des choses qu'on peut modifier. Et il faut que les femmes elles-mêmes acceptent que c'est comme ça. C'est des rôles qu'on peut modifier. Tant qu'elles-mêmes, dans leur tête là, elles n'acceptent pas que c'est comme ça, ça ne va jamais finir. Et la femme elle-même, elle va toujours garder ce mutisme de prise de parole. Même quand on fait des réunions, on dit, bon, femme, vous avez la parole. Dès qu'elle prend la parole, ils vont dire, ah bon, comme les hommes ont dit, tout, ils ont tout dit. Les hommes ont tout dit. Donc, ce n'est pas qu'on les empêche, mais c'est elles-mêmes qui n'arrivent pas. C'est les femmes elles-mêmes qui n'arrivent pas à se libérer de ce mutisme-là. On a préparé le terrain pour que les femmes soient des combattantes, mais honnêtement, il y a encore du pain sur la planche. Et en cela, j'ai dit, c'est le rôle aussi des femmes leaders des communes urbaines pour qu'elles aillent montrer à leurs soeurs de communes rurales là, que voilà ce qu'on veut d'elles. Est-ce que vous voyez?
Oui.
Parce que généralement, ce que les leaders urbaines la font, c'est quand ils ont besoin de leur sorte de commune rurale, ils vont partir là-bas.
D'accord. Madame Kadi, est-ce que vous partagez le même avis que monsieur quand il dit que c'est les femmes elles-mêmes qui constituent le frein à la libération de leur parole?
Bon, comme le directeur vient de le dire, des fois c'est l'islam. Parce que moi, en tant que femme, je ne devrais pas être rester à la maison, voir mon mari préparer ou bien faire le ménage. Parce que quand une de mes copines ou mes voisines rentre dans la concession, voir mon mari est en train de m'aider, elle prend ça à une autre forme. En sortant de ma concession, elle va aller dire aux autres, ma voisine, c'est elle qui commande, c'est elle la chef de ménage. Parce que moi, je suis venue, j'ai trouvé, c'est son mari qui fait le ménage, c'est son mari qui fait comme ça.
Mais si la femme elle-même décide, faudra-t-il pas faire fi de ce que la société raconte? Juste parce que pour libérer la parole de la femme, il faudra qu'on mette beaucoup de choses de côté. Bon, là, c'est dans le foyer.
Oui, ça.
Lui, il a parlé de dans les réunions aussi, même quand on leur demande la parole.
Dans les réunions, ce qu'il a dit, c'est tout à fait normal. Parce que deux fois, nous allons dire que c'est les hommes qui nous refusent de faire ceci, cela. Non, les hommes, ils nous accompagnent toujours. Parce que deux fois, c'est l'islam et deux fois, on met à l'écart l'islam. Quand on aille aux réunions, avant, nous pensons que le genre là, c'est uniquement les femmes. Mais à travers les sensibilisations, les formations, le genre là, c'est l'homme et la femme. Si ce n'est pas à travers les formations, les rencontres là, nous pensons que le genre, c'est uniquement la femme. Mais maintenant, Dieu merci, à travers les formations qu'on a reçues, les assemblées générales, on sait que le genre là, c'est l'homme ou la femme. Mais je suis entièrement d'accord de ce que le directeur vient de dire. Vraiment, à travers dans les réunions, deux fois c'est les hommes même qui nous oblige à parler. Il faut parler, il faut dire ce que vous êtes en train de rencontrer. Mais des fois, on a honte de s'exprimer.
Mais pourquoi, d'autant plus que c'est un milieu professionnel? Est-ce qu'elles ont besoin de la permission des hommes pour s'exprimer?
Tu sais, les femmes sont divisées en deux. Pourquoi je te dis en deux? Il y a des femmes, surtout les femmes dont le directeur vient de dire, les femmes des communes urbaines. Elles peuvent faire tout. Mais vraiment, nos sœurs des communes rurales, c'est différent. Parce que si une mission quitte ici, au sein de la commune, aille dans une commune rurale, les femmes sont là, mais on leur demande de dire leurs besoins. On ne peut pas avoir une femme qui va s'élever, dire ceci, cela, parce qu'ils ont peur de leur mari. Elles ne sont pas autonomes. Parce que si la femme là, elle a pris la parole, mais c'est fini. Quand la mission là est terminée, arrivé à la maison, c'est le mari qui va gronder la femme. Donc c'est toi. C'est toi la femme relais. C'est toi parmi toutes les femmes de ce village-là. C'est toi qui va lever, dire ceci, cela. Deux fois, ça crée même divorce. Mais maintenant, Dieu merci. Tout ça, petit à petit, ça s'en va à travers les sensibilisations, à travers et surtout la politique. Maintenant, arrivé dans les villages, il n'y a pas de femmes rurales, il n'y a pas de femmes qui sont dans les communes. Nous sommes toutes au même pied d'égalité.
Mm-hmm. D'accord.
J'aimerais un peu réagir par rapport au côté religieux. Au fait, souvent, les gens interprètent mal la religion. Vraiment. Parce que ce que j'ai dit là, la religion n'a jamais interdit. D'ailleurs, c'est ce qui consolide les relations. C'est ce qui consolide les liens entre mari, femme, enfant. Parce que quand ton enfant va constater que le père aide sa femme et que la femme elle-même accepte que le mari l'aide, mais les enfants déjà, ils ont un bon exemple. Ils vont le faire. La femme, elle est la reine, comme on dit. La femme, elle est ministre, comme on dit, des affaires économiques, des affaires sociales, de l'éducation, etc.
Donc, dans la religion, la femme, elle a droit à la parole.
Oui, elle a droit à la parole. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a des situations, il consulte ses femmes. Donc, la femme a droit à la parole. Et d'ailleurs, c'est comme vous l'avez dit dans l'introduction, là, c'est cela même qui a réhabilité la femme. Parce que comme certains le voient, la femme, à un certain moment, dans certaines sociétés, elle n'a aucune considération. C'est à elle maintenant de travailler.
La surcharge domestique des femmes. Et aussi, la femme, elle travaille parce que dans un diagnostic qu'on a fait, depuis le chêne du coq jusqu'à l'aube, la femme a 2 heures de temps de repos.
Oui, mais là, c'est l'occasion de montrer à la femme comment est-ce qu'elle pourra libérer sa parole et le faire expliquer à son conjoint. Nous allons en venir dans les recommandations.
Vous pouvez,
voilà, tout dire. Donc, on va progresser. Est-ce que la parole de la femme est suffisamment libérée pour s'exprimer sur leurs droits? C'est la question que nous avons posée à quelques femmes dans la région de Dosso. On les écoute en témoignage.
Effectivement, c'est un problème d'actualité, car notre tradition est la cause. Mais de nos jours, les choses ont changé. Il y a beaucoup d'évolution. Avant, la femme n'a pas droit à la parole. Quelle que soit la situation, elle ne fait que se soumettre. Mais de nos jours, face à la situation que nous vivons, la femme doit se ressaisir pour faire valoir ses droits. Que ce soit dans la vie courante, dans la vie en société ou même dans la vie conjugale, les droits de la femme sont souvent bafoués. Certaines femmes ont peur de dénoncer, alors que c'est la réalité. Elles souffrent en cachette. Il est temps que les femmes parlent. Même la religion encourage la prise en compte des droits des femmes. La femme mérite d'être respectée dans son foyer, dans la société. Donc les femmes doivent prendre leur courage à deux mains pour faire valoir leurs droits.
Même religieusement, vous allez constater que l'islam n'a pas interdit à la femme de gagner sa vie, de gagner du respect. Que la femme ne minimise juste pas son époux, ou qu'elle impose à son mari de la laisser faire ceci ou cela, car ça amène toujours des problèmes dans le couple. Mais à tête posée, on peut se comprendre. Que la femme ne laisse juste pas qu'on bafoue ses droits. Si tu connais tes droits, tu dois les défendre, quel que soit le problème. Car si tu fermes les yeux, on va piétiner tes droits devant toi. Mais si tu t'imposes, puisque ce n'est pas de la bagarre aussi. Mais la femme doit se battre pour elle-même. Car si tu as une source de revenus, même dans le foyer, elle peut soutenir son mari. Si la femme est compréhensive, bien sûr, tu ne laisseras pas ton homme tout gérer à la maison. Donc si un homme laisse sa femme se débrouiller, il verra que dans son foyer, cette femme-là réglera beaucoup de choses.
Que pensez-vous de ce témoignage, Madame Kadi?
Vraiment, elle a bien parlé. Et tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est vrai. Parce que les femmes sont violentées. Même hier, moi, je suis à la devanture de l'hôpital. Une femme a été violentée par son mari et avoir le bras cassé. Et elle a refusé de dire que c'est son mari. On a tout fait. La femme, elle ne peut pas dévoiler que c'était son mari. Et on l'a refoulée de l'hôpital. Elle n'a qu'à aller à la maison. Si elle ne peut pas dire celui qui l'a tapé, elle ne peut pas avoir les premiers soins. Et tout ce que la femme là vient de dire, vraiment, c'est ça.
Et vous, monsieur Djibrina?
Vraiment, les témoignages que j'ai écoutés ont presque retracé ce que nous avons dit. Mais j'ai juste un petit commentaire à faire ou un rectificatif. Parce que Quand elle dit, si on dit la religion a dit ça, non, si c'est la religion qui a dit, il n'y a pas de débat. Mais la religion n'a jamais constitué un frein à la libération de la parole de la femme. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce qu'elle a dit, il faut que la femme, effectivement, soit convaincue de ce qu'elle cherche. Ça, c'est mon droit. Et par rapport à ça, il n'y a pas de négociation. Et quand elle dit certaines, effectivement, elle a dit, c'est pas par la bagarre. Parce que il faut le dire aussi, généralement, les femmes, vous ne demandez pas les permissions. Vous informez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on dit dans un foyer, donner l'information ou demander la parole, c'est différent. Donner la parole, c'est avant de se préparer. Là, on demande la permission avant de se préparer. Mais quand on se prépare, on a le sac au dos, on a... Même nos enfants, ils ont l'habitude, dès qu'ils voient la maman avec hijab, sac-là, ils savent qu'elle va sortir. Mais la demande se fait avant qu'on se prépare.
Oui, M. Djibril, là, nous sommes trop en train de nous pencher sur la libération de la femme dans le foyer et au sein de la société et c'est de la vie sociopolitique
maintenant,
aussi.
Maintenant, au ça niveau compte. De la société ou de la vie sociopolitique, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait que... Parce que on ne peut pas, ça ne peut pas se détacher de là-bas. Si on prépare le terrain dans le foyer, au dehors, là, le mari n'a aucune inquiétude. Il sait que lui, sa femme, n'a pas de soucis. Et il la supporte même. Il la supporte. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui peuvent témoigner que c'est leur mari qui les supporte dans ce qu'elles sont en train de faire. Donc moi, je me dis, dans la vie, que ça soit communautaire, si elle n'arrive pas à se départir de ses préjugés, en tout cas qui n'ont rien à voir avec la religion, je précise, c'est des préjugés modifiables. Il faut que la femme soit convaincue. Parce que si on prend l'exemple de la terre, moi, rien que récemment, j'ai demandé à mes sœurs, par rapport à l'héritage que notre papa a laissé, j'ai dit, vous avez droit à la terre. Si vous voulez, on va retourner au village, on va demander à ceux qu'on partage la terre-là, en enlevant votre part. Elles m'ont répondu, ah, voilà, elles ont laissé. Vous voyez? Donc, ça commence là-bas. Alors que c'est leur droit, en prenant ça, tout le monde sait que c'est son droit. Mais si elle veut, elle peut dire à un frère, bon, tu prends. Parce moi, je te fais cadeau.
Elles ne devraient même pas laisser. Vous voyez? Parce qu'elles ont des enfants.
Ah, tout ce que, c'est ce que j'ai dit. Les droits, là, ça s'arrache.
Mais ça ne se donne pas.
Ça ne se donne pas. Mmh. Sur le plan politique, les femmes ont toujours accepté ces postes-là, peut-être même dans le positionnement, qui n'a rien à voir avec... souvent la prise de parole, hein. Des fois, on leur donne des postes relégués au dernier rang. Elles acceptent. Alors que, compte tenu de leur poids, aujourd'hui, quand vous partez dans les villages, même lors des mobilisations, vous allez voir que c'est les femmes sont plus mobilisées que les hommes. Même dans les réunions communautaires, vous allez voir que les femmes se mobilisent plus que les hommes. Donc, pourquoi accepter sur le plan politique qu'on vient de vous dire, ah, et maintenant, on va faire travailler le quota. Parce que les femmes, elles ont intériorisé ça, que c'est le quota qu'elles cherchent. Non. J'ai bien dit, il faut que les gens se départissent même. Il faut qu'elles aillent loin. Certes, le quota est là. C'est pour vous aider à mieux faire. Maintenant, arracher le quota, mais encore, il faut faire plus. C'est ça qu'on veut.
D'accord.
Monsieur. Le quota, là, jusqu'à présent, le quota n'a même pas été respecté. Parce que quand prenons à l'Assemblée, combien de députés a que 7 femmes à l'Assemblée? Donc le quota n'a pas été respecté.
C'est pas 52 femmes députées plutôt?
Oui, c'est 52 femmes députées.
Voilà.
Et comme vous venez de dire, il y a aussi la méconnaissance des textes. Prenons dans le cas de la politique. Parce que c'est la femme qui travaille beaucoup, mais... La femme, tu vois, elles peuvent dire qu'elles peuvent être titulaires, mais tu vas voir, un homme va dire non, et toi tu es une femme. Laisse-moi le devant, toi tu viens derrière.
Justement, madame, quelles sont les entraves? Vous avez déjà entamé la question. Quelles sont les entraves liées au respect des droits des femmes nigériennes, de la vie familiale, de la société et de la vie sociopolitique?
Maintenant, ce que nous voulons, il faut qu'on accompagne les femmes. Accompagnement des femmes. Mais parce que la politique, c'est les femmes. Si on n'a pas de formation,
les problèmes qu'elles rencontrent, les entraves, les problèmes qu'elles rencontrent, elles n'arrivent pas à s'exprimer.
Parce que moi, en tant que femme, être concernée, j'ai vécu beaucoup de problèmes. Parce qu'en 2011, la coloration politique dont je suis la seule femme parmi les hommes. Les femmes, elles sont à la maison, elles travaillent. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à 11h, il y a une réunion. À 11h, je ne peux pas participer à la réunion. Parce que je vais faire mon ménage, je vais cuisiner. Et je ne peux pas laisser tout ça pour aller à la réunion sans l'accord de mon mari. Deux, les réunions, c'est à des heures tardives. Le mari est à la maison. Si, comme le directeur vient de le dire, c'est l'éducation, le mari et la femme, vous pouvez s'entendre. Parce que si mon mari est d'accord, à 4h du matin, je peux aller assister à des réunions parce qu'il m'a accordé l'autorisation d'aller. Mais s'il ne m'a pas accordé, je ne peux pas aller. Et même la prise de décision, c'est à heure là qu'ils sont en train de prendre les décisions. Et si je ne suis pas là, je voudrais être titulaire. Mais je n'ai pas allé assister à cette réunion. Donc, ils peuvent enlever mon nom pour être suppléante. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est mon absence. C'est à l'absence. Et parce que je n'ai pas eu l'autorisation, je ne peux pas aller. Parce que je ne peux pas aller perdre mon mariage à cause de la politique. On rencontre les problèmes là un peu partout.
D'accord. Monsieur Djibrina, la prise de la parole est une forme de pouvoir et d'influence dans la société. Est-ce que ça pourrait être le cas pour les femmes? Est-ce qu'un jour ces femmes-là pourront prendre le plus pouvoir et avoir de l'influence dans la société?
Elles peuvent.
Oui.
J'ai toujours dit, c'est une question de confiance en soi. Il faut que j'ai confiance en moi. Je me dis, qu'est-ce que je veux? Comment je veux l'obtenir et qui peuvent m'aider à atteindre cet objectif. Parce qu'ici, on parle dans le cadre de la femme au foyer, mais d'autres ne sont pas au foyer, mais elles n'ont pas le courage de participer pleinement à ces activités-là ou bien à cette libération de la parole. Ça, on parle de la femme au foyer, mais celles qui ne sont pas au foyer, elles aussi, elles sont à l'écart. Donc, ça veut dire que c'est toujours cette manière de voir que la société m'a dit de faire ça, de ne pas faire ça. Non, j'ai dit bien, il y a des choses qu'on peut modifier et qui peuvent nous permettre d'avancer.
D'accord. Donc, quelles sont les capacités d'une femme qui arrive quand même à prendre la parole dans la société? Est-ce qu'elle peut aller loin, cette femme? Quelles sont ses capacités?
Les femmes, elles sont loin. Elles sont loin, elles peuvent être... Mais en Afrique, on a des femmes présidentes, non? C'est ça, non?
Oui.
Donc, elles peuvent aller loin. Elles sont ministres, elles sont présidentes d'assemblée. Dans les institutions, c'est des femmes partout. Donc, elles ont cette capacité de faire. Mais il faut que la femme, en tout cas, ait confiance en elle-même.
D'accord, la confiance avant tout. Et vous, madame, quelles sont les capacités d'une une femme qui arrive à prendre la parole dans la société?
Oui, comme le directeur vient de le dire, parce que maintenant, dans les institutions, avant, c'est les hommes. Mais maintenant, les femmes sont engagées. Parce que il y a des femmes entrepreneuses, il y a les femmes commerçantes, il y a les femmes ministres, il y a des femmes ingénieures. Et dans l'armée, il y a des femmes. Mais Dieu merci, avant, ce n'est pas ça. Avant, ce n'est pas ça. Les femmes sont derrière. Mais vraiment, cette fois-ci, maintenant, vraiment, on n'a pas été marginalisé. Mais avant, ça a été comme ça. Mais vraiment, tu ne peux pas aller dans une institution ou bien ailleurs sans voir 5 à 3 femmes.
D'accord. À présent, place au portrait de notre émission. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mme Nafissa Touhidé, coordinatrice de l'ONG Femmes Action et Développement, une femme qui a fait beaucoup pour la liberté des droits des femmes.
Née en 1984, Hajia Nafissa Touhidé est titulaire d'un Master 2 en psychologie depuis 2008. Depuis le collège, elle était dans le syndicat et occupait des postes. Aujourd'hui, Nafissatou est l'une des femmes très engagées dans la défense et la promotion des droits des femmes, une passion d'enfance. Elle raconte les raisons qui l'ont motivée.
Ce qui m'a beaucoup plus orientée sur les questions des femmes, c'est vraiment quand on regarde de manière générale les conditions de vie des femmes. Nous constatons que c'est des conditions qui ne sont pas vraiment satisfaisantes, d'où la nécessité d'apporter une solution par rapport à tous ces problèmes-là que les femmes rencontrent. Également, quand je regarde au sein de ma famille, nous avons plusieurs cas de VBG qu'on peut appeler ainsi, parce que nos mères n'ont pas été dans de bonnes conditions au moment où elles sont dans leur foyer avec nos pères. Donc, tout cela m'a interpellée. Je n'ai pas grandi avec ma mère, mais le plus souvent de fois, quand je suis avec elle pendant les vacances, j'ai tendance souvent à péter les plombs parce que je vois une femme qui ne mérite pas de se battre seule pour subvenir à certains besoins. Elle a toujours été femme de famille comme père de famille. Doublement, elle jouait le rôle de l'homme et le rôle de la mère. Donc, c'est une femme qui m'inspirait.
En 2009, une idée de créer une organisation lui est venue. Nafissatou Idé est actuellement directrice exécutive de l'ONG Femmes, Action et Développement FAD Niger.
Quand on a commencé à avoir l'idée de création déjà avec les amis, on était même à l'hôpital. Il y avait ma grand-mère qui était hospitalisée, elle était sur son lit de mort, je ne pouvais pas aller à la maison. Donc j'amenais l'ordinateur là-bas pour travailler tard la nuit et constituer les textes de l'organisation. Et FAD aujourd'hui est constitué d'une équipe très dynamique. On travaille ensemble en équipe. On dit qu'on est une famille. Donc, tout ce qu'on a eu comme résultat, ce n'est pas Aja Nafissa, c'est vraiment toute l'équipe qu'il faut revoir. Peut-être c'est le lieu de l'essayer, en tout cas pour tout leur engagement, pour tout leur dynamisme. Ce qu'on fait, c'est vraiment un accompagnement. On fait énormément de formations sur plusieurs thématiques en lien avec la femme. On fait le plaidoyer au niveau local, au niveau national et au niveau international pour plus de participation des femmes dans les instances de prise de décision et leur participation également dans les mécanismes de prévention et de gestion de conflits. On met en place des cadres de hearing, par exemple dans les établissements scolaires, pour responsabiliser les jeunes filles, pour qu'elles arrivent vraiment à prendre en charge cette question de violence en milieu scolaire. Il y a plusieurs autres organisations de jeunes filles qui sont créées sous inspiration de l'organisation FAD. Nous faisons également des activités génératrices de revenus. On distribue des moulins à grains, des machines à coudre. On met à la disposition également des kits événementiels aux femmes en situation de vulnérabilité ou bien qui sont en zone de conflit pour qu'elles puissent s'autonomiser. Dans les partis politiques également, nous avons identifié des mentors que nous sommes en train d'encadrer pour qu'elles puissent jouer un rôle important au niveau des partis politiques.
Nafissatou Idé s'est dit très satisfaite des résultats obtenus de leur combat.
Je suis personnellement très très satisfaite. Aujourd'hui, vous regardez au niveau national, même au niveau international, si on doit citer deux organisations féminines les plus crédibles et les plus dynamiques, je pense que si on n'est pas première, on sera deuxième. On a beaucoup de choses en perspective, surtout pour les élections à venir, et je pense qu'on va se mobiliser pour non seulement mobiliser les ressources, mais également apporter beaucoup plus. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, vous faites simplement une comparaison de tout ce qui est évidence, vous allez constater qu'il y a eu du changement. Je ne dirais pas que c'est grâce à FAD, mais c'est également grâce à tous les efforts consentis par les partenaires techniques et financiers, par l'État et également par les autres organisations de la société civile. Les problèmes sont multiples, multiformes. On ne peut pas les citer parce que si une organisation a pu grandir et arriver à ce niveau, c'est parce qu'on a pu traverser énormément de difficultés et on a pu résoudre pas mal de problèmes. Pour nous, ce ne sont pas des problèmes, parce que tout problème que tu identifies et que tu trouves la solution, ça devient plutôt une opportunité.
Ses collaborateurs, Amina Bokari, chargée des partenariats, et Tahir Saïd Abdelkader, responsable de logistique et sécurité à l'ONG FAD, apprécient le courage de Hajia Nafissatou Idé.
Madame Nafissa est quelqu'une qui ne plaisante pas avec le travail, qui est très professionnelle, qui sait se montrer très cool, mais vraiment quand il s'agit de travail, elle s'y met et elle veut que toutes les personnes personnes autour s'y mettent. Personnellement, il m'inspire beaucoup parce que c'est son travail qui me pousse à me donner à fond pour ne pas la décevoir, pour répondre à ses attentes.
Je trouve son travail vraiment impeccable et parfait. Sur le plan professionnel aussi, elle m'aide à m'améliorer beaucoup. Elle est très rigoureuse. Elle aime le travail bien fait. En un mot, elle est comme une personne perfectionniste, comme on le dit. Et sur le côté social, il n'y a pas son deux. Franchement, il n'y a pas son deux.
Il ne suffit pas de faire une chose, mais il faut savoir pourquoi et pour quelle vision vous les faites. Il faut juste rester dans la constance, déclare Hajia Nafisa Touhidé. Les femmes doivent croire à leurs compétences et se mettre en réseau pour se développer ensemble.
Voilà, Madame Kadi, quelle appréciation portez-vous à ce portrait qu'on vient d'écouter, Monsieur Djibrina?
En tout cas, ce que j'ai écouté m'a donné plus confiance que la femme peut mieux faire. Parce qu'elle est partie d'un constat, des difficultés que nos mamans vivent ou sont en train de vivre.
Et donc vous l'avez dit, tout vient de la base.
Tout vient de la base.
De la famille, d'accord.
Donc,
oui.
Elle est partie de ce constat et elle s'est tracé un objectif. Et voilà, et l'exemple qu'elle vient de citer, si on cite une organisation, en tout cas, des femmes, je pense qu'elle dit que si elle n'est pas première, elle sera deuxième. Donc c'est la preuve que la femme peut mieux faire. Elle peut être dans toutes les étapes de la vie.
Au-delà des violences subies, il faudrait davantage que cette voix se libère aussi pour revendiquer certains droits fondamentaux dont ceux consacrés dans la Charte des Nations Unies, les pactes de droits civils, politiques et économiques ainsi que les nombreuses conventions adoptées dont celles relatives à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La dernière question, que faire pour libérer la parole des femmes pour qu'elles puissent être à même d'exprimer leurs besoins réels, défendre leurs droits et se prémunir de toutes les violences dans la région de Dosso? On continue avec vous, Monsieur Djibrina.
Comment faire? Et il faut effectivement s'attaquer aux vrais problèmes, aux vrais obstacles, en tout cas qui empêchent que les femmes émergent. Les préjugés dont j'ai parlé, vraiment, il y a lieu de sensibiliser les communautés. Parce que souvent, c'est la mauvaise interprétation, comme on dit, des préceptes islamiques, qui amène que les gens disent « Ah, c'est l'islam qui a dit ça, c'est l'islam qui a dit ça ». Alors que l'islam n'a rien à voir avec certaines informations que les gens véhiculent. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait que les femmes elles-mêmes se disent « Nous avons des droits, il faut que nous engagions à faire en sorte que nous les obtenions. » Parce que les droits, comme je le disais tantôt, les droits, ça s'arrache. On ne croise pas les bras pour regarder. Ça, c'est mon droit. Ça ne se discute pas. Maintenant, il faut chercher les voies et moyens. Et pour y arriver, il faut s'attaquer aux vrais obstacles. Et je reviendrai sur les questions de genre. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Là-bas, il faut que les femmes elles-mêmes se donnent les moyens pour se départir de ces idées-là. Parce que vous avez écouté, madame, même quand elle citait tout à l'heure, elle dit que si la femme de mon voisin va venir trouver, je suis mon mari en train de faire ça, elle va aller raconter. Vous voyez, non? Donc, une manière de dire que les prédispositions déjà qu'elle a l'empêchent, en tout cas, de se libérer de certaines charges du foyer. Elle voit que tout ce qui est de la maison, là, c'est à elle de faire. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Il faudrait que aussi les femmes elles-mêmes acceptent. Et c'est la recommandation toujours que j'ai faite. C'est les leaders, mon sort, là, qui sont ici, qui ont compris quelque chose. C'est à elles d'aller utiliser, en tout cas, presque les acteurs communautaires, hein, les leaders communautaires, là, pour s'attaquer au vrai obstacle qui empêche à la femme, en tout cas, de s'émerger. Parce que les problèmes qu'elle avait cités, certains, c'est pas parce qu'ils savent, hein, beaucoup savent que la femme, là, religieusement, si on revient dans la religion, religieusement, la femme, c'est une reine.
D'accord, Monsieur Djibrina.
Oui.
Le technicien me signale que nous sommes déjà dans les temps. On va aller vite avec vous, Madame Kadi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer la parole des femmes pour qu'elles puissent être à même d'exprimer leurs besoins réels, défendre leurs droits et se prémunir de toute violence dans la région de Dosso?
Le directeur vient de dire tout ça. Parce que le directeur est mieux placé
c'est
que
c'est ce
moi.
Qu'il disait. Vous voyez, on vous a donné la parole, vous venez de me dire que le directeur vient de dire tout ça. Nous, on a besoin de votre avis, on a besoin que vous vous exprimez. Selon vous, avec ces chartes, ces lois qui sont là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces femmes arrivent en fait à ceux qu'on les écoute?
Et nous, femmes, il faut nous accompagner. On a besoin d'accompagnement, on a besoin de formation. Il ne faut pas former et laisser. Parce qu'il y a la formation et le suivi. Nous, c'est l'accompagnement que nous voulons. Il ne faut pas nous former et nous laisser dans l'air comme ça. Il faut de temps en temps nous accompagner. Oui, oui, l'accompagnement.
C'est un thème qui suscite beaucoup de débats, mais nous sommes malheureusement à la fin. Merci, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je suis Rafika Taher à la présentation. Issa Lawali a assuré la technique. Rendez-vous mardi prochain à la même heure pour un autre thème du Forum Espace Femmes du Studio Kalangou. Place maintenant à notre rubrique Affairage qui sensibilise en humour. Aujourd'hui, elle va parler d'un monsieur qui empêche sa femme d'aller voter elle-même. Excellente soirée à tous et au revoir.
Affairage.
Assalamu alaikum. Hamsatu.
Wa alaikum assalam Rachida, comment vas-tu?
Je me porte à merveille. Et toi, comment tu vas ainsi que ta famille?
Tout va très bien, wallahi Dieu merci. Alors, quelles sont les nouvelles?
Il n'y a rien de spécial. Et de ton côté?
Rien de nouveau vraiment, à part que je ne retrouve plus ma carte de lecteur. Alors que tu sais, c'est bientôt que nous allons voter, nous les Nigériens de la diaspora.
Toi, tu t'es même fait enrôler jusqu'à penser à aller voter?
Mais bien sûr, parce qu'en tant que citoyenne, c'est mon droit et mon devoir de me faire enrôler et d'aller voter. Ne me dis pas que tu ne l'as pas fait.
Non, je ne me suis pas fait enrôler et je n'irai pas non plus voter.
Et quelles sont tes raisons?
Elle est simple et unique ma raison. Cependant, elle reste personnelle. Je n'ai pas envie ni même besoin de la partager.
Ma chérie, calme-toi. Ce n'est pas la guerre. J'essaie juste de t'expliquer qu'il est de ton devoir de citoyenne nigérienne, même ne vivant pas au Niger, de t'acquitter de ton droit de vote. Et je ne vois vraiment pas ce que tu me cacherais en tant que ta sœur.
Je sais cela, ma grande. C'est aussi vous qui m'avez appris à garder en secret ce qui se passe entre mon mari et moi.
Et quel est le rapport entre ton vote et ton mari?
Justement, tout est lié.
Je ne comprends rien de ce que tu dis.
En fait, c'est mon mari qui m'a carrément interdit de me faire enrôler et de même penser à aller voter.
Non, tu blagues, ma sœur.
Grande sœur, toi aussi. Comment puis-je blaguer de la sorte sur un sujet aussi sérieux?
Je n'arrive pas à le croire, quoi.
Tu vois, pourquoi je ne voulais pas parler de cela?
Ouais, je te comprends, petite sœur. C'est juste que c'est un peu difficile à croire.
Et pourtant, c'est la stricte vérité.
Mais comment un citoyen et de surcroît un intellectuel peut penser de la sorte?
Je ne sais pas, vraiment. Lorsqu'il me l'avait interdit, je lui ai demandé pourquoi. Il ne m'a donné aucune explication.
Pourtant, il devrait te donner au moins une raison, même si je ne vois aucune raison, de t'empêcher de t'acquitter de ton devoir de citoyenne.
Je ne sais quoi dire encore sur ce sujet.
Et pourtant, tu le dois, même si maintenant il est tard. Mais tu te dois de le convaincre de te laisser voter la prochaine fois.
Comment faire alors, grande sœur?
Premièrement, tu dois connaître ses raisons et après tu pourras lui expliquer l'importance du vote.
À vrai dire, grande sœur, moi-même c'est tout de suite à travers toi que j'ai compris que le vote est important. C'est pourquoi je n'avais pas insisté lorsqu'il m'avait interdit de faire l'enrôlement.
Alors, laisse-moi te dire que tout citoyen nigérien vivant au Niger ou à l'extérieur a le droit et le devoir de s'impliquer dans la vie politique du pays. C'est-à-dire, il lui incombe d'exercer son droit de vote et personne ne peut lui ôter ce droit.
Mais tu oublies que c'est mon mari, c'est lui qui décide pour moi.
Oui, je sais, mais il se doit quand même de te laisser ton droit de vote et tu devrais en discuter avec lui.
D'accord, grande sœur. Merci de m'avoir éclairée sur ce sujet. J'en parlerai avec lui dès son retour.
Je t'en prie, ma petite sœur. Bon, je rentre maintenant. Bonne journée à toi.
Je t'accompagne, grande sœur. On se dit à la prochaine.